Je sais pas chez vous, mais chez nous, à Noël, avec tous ces chocolats, la motivation pour aller faire du sport est en dessous de zéro. Heureusement qu'à la télé, on a trouvé plein d'athlètes qui voulaient bien en faire pour nous.
Avec le Noël spectaculaire de SFR, profitez du meilleur du foot anglais et portugais en exclusivité avec la fibre starter et SFR Sport à 19,99€ par mois. Et pas seulement la première année. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à condition d'éligibilité valable jusqu'au 8 janvier 2018, réservée aux nouveaux clients. Plus 5€ par mois de location box, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49€.
RMC. Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
Le Super Football Show.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois. Mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour.
Daniel Riolo est avec nous, Pierre Ducrot également, Fred Hermel depuis 22h. C'est le moment d'accueillir le reste des drôles de dames. Simone Rovera, salut Simone.
Ciao, bonsoir, bonsoir.
Philippe Auclair pour l'Angleterre, salut Philippe.
Salut les amis.
Ciao.
David Lorto pour l'Allemagne, salut David.
Allô Fred, salut Jean-Louis, salut à tous.
Et donc Fred, pas besoin de te redire bonsoir.
Il est fatigué
Ciao.
Fred quoi.
Mais qu'est-ce qui se passe là?
Il est là depuis 22, alors il est un peu
plus tard. Pas plus de 22 depuis ce matin surtout.
Il a fait une heure sup.
J'ai pas arrêté de bosser toute la journée là.
On précise que dans l'after t'es payé pareil, que ce soit 22 minuit ou 23 minuit. Hein. Ça on te l'a peut-être pas annoncé.
Ah, y a pas de supplément quand même.
Non.
C'est pour ça qu'il boude.
Le plaisir, Fred, dans ce cas.
Non, mais c'est vrai que, non, franchement, moi j'aime bien être avec Pierre. Je trouve que c'est un mec qui en a dans la tête.
Avec Daniel, ouais,
non. Ah bah Daniel, c'est.
C'est une belle histoire. Dire,
il le dit
bah,
même plus.
Ouais, enfin je veux dire, c'est. Tu vois, c'est comme.
C'est comme la vie. Non mais tu dis ça pour Pierre parce que ça te change, ça te fait des vacances de Jérôme Rotten.
Ouais, c'est ça.
À chaque fois.
C'est-à-dire que en fait Jérôme Rotten avec Daniel Riolo, c'est Daniel Riolo, c'est le duo Chevalier de la Spalès. Avec Pierre, tu vois, c'est un peu plus, tu vois, c'est plutôt c'est pas les Chardennes quoi, tu vois, c'est un autre style.
Il y a du fond quoi, voilà, c'est autre chose. Allez, on y va tout de suite pour l'Angleterre.
Attends. La main de Thierry Henry, c'est pas la main du diable également?
Et là, plein de choses à dire. Alors, sur le jeu, on va dire énormément de choses. Mais Philippe, est-ce qu'on évacuerait pas tout de suite ce qui s'est passé dans le vestiaire après le match? Victoire de City 2-1 face à Manchester United.
Eh ben écoute, juste après coup de sifflet final, les deux équipes rentrent dans leurs vestiaires respectifs qui sont séparés par un tunnel à Old Trafford. Je t'avouerai que j'étais à 50 mètres, que j'ai absolument rien entendu, rien vu. Donc ce que je vous dis, c'est les témoignages des gens qui étaient là. Moi, j'étais en train d'attendre qu'un des joueurs de Manchester United vienne nous parler. Il n'est pas venu pour des raisons qui sont maintenant évidentes. José Mourinho est allé vers Manchester City pour se plaindre, semble-t-il, du volume sonore de la musique que l'on jouait dans le vestiaire, également des célébrations après cette victoire. Il a mis le nez à travers la porte du vestiaire. Ederson, le gardien de Manchester City, lui a indiqué en portugais qu'il n'était pas nécessairement le bienvenu. Les choses se sont envenimées, des insultes ont fusé en portugais et en anglais. Des joueurs de Manchester City ont fait comprendre à José Mourinho qu'il pouvait rebrousser chemin, ce qu'il a fait, mais non sans avoir apparemment dégusté un carton de lait qui a explosé sur le mur. Des joueurs de Manchester United ont cru bon de devoir se mêler à ce petit fracas. Et tout ce joli monde a été séparé par la police. L'un des assistants de Pep Guardiola, Mikel Arteta, a eu le visage entaillé et couvert de sang. Bref, enfin voilà ce qui s'est passé après le match et qui en je voulais avoir un avis plus nuancé ce soir, mais je t'avouerai que là c'est fini, j'en peux plus et j'explose et
alors, le titre de ton avis Philippe, là, on va en venir au foot, c'est ouais, Mourinho s'est fait mourigner
complètement. Il s'est fait mourigner à plusieurs niveaux. D'abord, il s'est surtout fait mourigner au niveau du jeu, tactiquement, par Pep Guardiola, au niveau tactique offensive et défensive. Au départ, tu vois la composition des deux équipes. On se disait, ça y est, Mourinho a retenu la leçon du match contre Liverpool, du match contre Tottenham. Il met une équipe offensive. Avec Lukaku, avec Lingard, avec Rashford, avec Martial, on va voir ce qu'on va voir. Et on a vu ce qu'on a vu, à savoir une équipe qui défendait à 10 dans les 30 mètres, avec le pauvre Lukaku tout seul. Ça balançait des ballons depuis Valencia, depuis Young, et à destination d'absolument personne. Donc Manchester City, très logiquement, a pris l'avantage. Et ensuite, en seconde période, et ben Manchester City a géré à la Mourinho, je dirais presque. Je me demande s'il n'y avait pas presque un niveau presque je dirais pas hypocrite, mais de la part de Guardiola, de on va bien enfin mettre un petit peu de sel dans les plaies, à savoir que tu fais sortir Gabriel Jesus, tu mets David Silva en avant-centre, tu fais entrer Eliakim Mangala, tu le mets en défense centrale pour faire avancer Fernandinho, parce que mine de rien, t'as quand même perdu Vincent Kompany, l'accent anglais, en première période. Et tu maîtrises, tu contrôles absolument totalement en jouant relativement défensivement en seconde période. Et je crois que José Mourinho, tout simplement, a pété les plombs, et en même temps il a essayé de dévier, de encore une fois, de faire que l'histoire ne soit pas sur le fait que il a baissé son pantalon à domicile devant des spectateurs qui n'ont pas nécessairement apprécié cela, qu'il a été dominé tactiquement et techniquement par un entraîneur qu'il déteste, et donc que d'une certaine manière il a voulu encore une fois reporter l'attention sur lui-même et sur un incident qui finalement ne signifie pas grand-chose, ne signifie pas autre chose que ce que nous savions déjà. Je suis déçu. J'aurais voulu être plus nuancé, Daniel, Jean-Louis. J'ai essayé de l'être depuis le début de la saison. Chaque fois qu'il y a eu des choses qui m'ont fait croire que bon, ben peut-être cette fois-ci, ben et puis non. Et puis non, on retombe toujours dans la même chose.
L'année dernière, et oui. je trouve les gens à Manchester un peu patients, mais l'année dernière déjà tout le monde en avait marre. Et en fait, la saison avait été sauvée par l'Europa League, qui était un petit peu tombée. Grâce à un parcours qui, pour une équipe avec les moyens de Manchester United, n'était pas non plus complètement dingue, avec cette finale gagnée, même si tu t'es fait marcher dessus par les mômes de l'Ajax, le retour en Ligue des Champions a été ultra survendu. Et puis, après, tu redémarres la première ligue, et quand tu t'appelles Manchester United, tu ne peux pas supporter d'être dirigé par un tel entraîneur. T'as pas le droit, en fait. Il y a des clubs qui peuvent pas supporter ça. Des clubs qui peuvent pas supporter de jouer à domicile en laissant, en plus, le voisin qui, historiquement, a toujours été ton paillasson, te marcher dessus.
Plus ou moins, oui.
C'est pas possible. Absolument. C'est pas possible. Tu t'appelles pas Manchester United pour avoir 30% de possession à domicile avec une équipe qui vient et qui te marche dessus. Surtout quand t'as autant de bons joueurs, autant de moyens. C'est pas possible. Tu peux pas poursuivre toute ta vie l'idée que seul le résultat compte, parce que de toute façon, il n'y a rien de pire dans ce raisonnement quand tu n'as plus le résultat. Parce que quand tu ne l'as plus, il ne te reste plus rien si ce n'est la honte.
Ouais, mais pourquoi Manchester United prend Mourinho alors? C'est quand tu le prends, tu sais que ça va être ça.
Bah, peut-être que tu sais, peut-être que tu le sais pas vraiment, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui veulent nier ce qu'il est.
Mais non, c'est parce que tu peux pas savoir que c'est Mourinho depuis des années, et il a gagné ça. Parfois comme ça, donc
il a encore une cote, mais il y a, ça fait longtemps, hein, déjà dernière année de Real et tout, pourtant il a recommencé un peu à gagner. Moi je disais, il est en train de se caricaturer complètement. Mourinho,
ouais, mais il a toujours fait, moi c'est pas une surprise,
allé,
ce que je veux dire.
Il est allé au bout du paroxysme de son personnage en 2010. C'était jusque là c'était parfait, il était allé au bout de son histoire. Après il a basculé dans complètement autre chose, où il a voulu se battre contre tout le monde. Il traînera toute sa vie ce complexe Guardiola. Il y a je pense qu'il y aura un livre fabuleux écrit sur les deux.
C'est magnifique, l'histoire entre les deux.
Il y a un livre qui a été écrit
sur les deux, mais je pense que le véritable livre pour moi ça serait sur le complexe d'infériorité de Mourinho.
Exactement.
C'est quelqu'un qui a besoin en permanence de se rassurer par les victoires, parce qu'il y a cette espèce de sentiment que moi c'est la façon dont je le perçois. Je dis pas que j'ai nécessairement raison, mais ça fait quand même un certain bout de temps que je le pratique, le Mourinho, et tu as l'impression, il a des qualités humaines énormes, et ça il faudra jamais le nier. Il a des qualités de loyauté, il a des qualités de fidélité qui sont absolument indéniables. Il a tous ses titres, mais ces titres c'est un petit peu comme des doudous pour lui, j'ai l'impression maintenant, en ce sens que bon, il est dépassé par les événements au niveau du jeu et au niveau de l'équipe, et son équipe a coûté aussi cher que celle de Manchester City. Donc qu'on arrête.
Et les joueurs vont en avoir marre, parce que les joueurs ils disent ça, pourquoi nous on joue pas comme eux, moi nous aussi on sait jouer au ballon.
Daniel, j'ai entendu un truc
hier, Philippe. Moi je vois Ashley Young arrière gauche. Ashley Young, rappelons quand même à ceux qui peut-être l'ignoreraient, mais au départ c'est un attaquant gauche.
Et il a été très très bon comme wingback, comme piston sur le côté gauche, voilà, avec Manchester City contre des adversaires.
Il y a pratiquement que des joueurs de ballon dans cette équipe.
Valencia à droite, c'est très bon.
Attends, combien des joueurs de United seraient titulaires dans City aujourd'hui?
Non, mais il a dit. Non, tu dis ça, Simonet.
Franchement, si c'est Guardiola qui les fait jouer, il y a un match. Hein.
C'est les joueurs
si
de United.
Si c'est Guardiola qui les fait jouer, il n'y a pas de problème. Hein.
Bah, c'est ça. Pas tous quand même. Hein.
Mais pas tous.
Entre Lukaku et Jesus, je prends toujours Jesus.
Ouais, écoute,
toute la vie. Entre De Gea et Mourinho.
Sauf De Gea, les autres 10, les joueurs de camp. de terrain. Attends, il n'y a pas photo.
Mais moi, j'aimerais beaucoup voir.
Qui était sur le terrain hier, parce que Pogba n'était pas là.
Simone, Otamendi, tout le monde lui fait caca dessus depuis des années. Mais sauf que Guardiola, il continue à le faire jouer. Il le fait jouer. Tu prends le.
Il n'y a pas Ramos et Piqué dans le défenseur City à United.
Comment, merde, comment ça, leur milieu défensif, là.
À qui?
Où ça? Bah,
il y avait City.
Fernandinho.
Petit Fernand, voilà. Lui aussi, il y a deux ans, c'était plus personne, hein. C'est, faut voir que c'est Guardiola qui fait, qui transforme ses joueurs et qui en fait des joueurs excellentissimes.
C'est
ceux de Manchester United sont un mec comme Herrera, c'est très bon, hein. La plupart des joueurs qui, alors après que tu préfères le style Gabi Jesus à Lukaku, je le comprends. Moi aussi, je préfère ça. Mais Lukaku, en face, il aurait plus de ballons, il jouerait mieux, hein. Il jouerait mieux, t'inquiète pas qu'il jouerait mieux, sûr.
Parce que c'est un attaquant pour avoir du ballon, Lukaku.
Et De Bruyne était un joueur extraordinaire, Philippe. De Bruyne était un joueur extraordinaire, mais Guardiola, en le mettant comme il l'a mis comme ça au milieu, il en a fait un joueur.
Un des meilleurs du monde.
Mais pour moi, un top 3 mondial aujourd'hui.
On en parlait avec Jean-Louis et avec Duga tout à l'heure. Il y a un truc que j'ai entendu en deuxième période à Old Trafford que je n'avais jamais entendu auparavant. C'est un stade Old Trafford qui sifflait lorsque Manchester City avait le ballon, et non pas parce que Manchester City avait le ballon, mais parce qu'il n'y avait aucune intention de le récupérer haut de la part de son équipe de Manchester United. Ça m'a fait très mal parce que c'est un club, Manchester United, qui a une tradition de jeu qui est parfois un petit peu exagéré, mais qui est la tradition de jeu de l'époque de George Best et de Matt Busby, et puis et même avant ça de Bobby Charlton et Duncan Edwards, et ensuite tu as même l'époque de Ron Atkinson où c'était une équipe qui était franchement belle à voir jouer, même si elle gagnait pas le championnat, et puis à l'équipe de Ferguson, bien évidemment, que nous avons tous connu, et qui avait quand même une certaine flamboyance.
Philippe, à une erreur de casting pour moi, c'est tout.
Il y a une chose qui me gêne, c'est pour ça que on est bien obligé d'en parler parce que c'est quand même l'événement du week-end. Mais ce qui me gêne, c'est que ça fait passer sous silence le fait que Manchester City vient d'établir un nouveau record et un vrai record du nombre de victoires consécutives dans la première division anglaise, 14 sur une saison, ça n'était jamais été fait auparavant, notamment, et des victoires, attention, c'est pas des victoires dans un championnat qui est pas compétitif ou quoi que ce soit, les 4 dernières victoires c'est par 2-1 et souvent ric-rac. Mais ça veut dire qu'on a affaire à une équipe qui est tout simplement exceptionnelle. Profitons-en, sachons le goûter, et qu'il y a des tas d'autres choses qui sont passées, qu'il y a des joueurs dont j'aimerais parler, David Silva qui a fait une performance absolument, pour moi, magnifique, une des plus belles performances individuelles que j'ai vues sur un terrain cette saison, etc., etc. On parle de Mourinho, mais ça empêche de parler des autres, et c'est ça qui me gêne.
Alors, c'est vrai, mais il n'empêche quand même que sur Mourinho, tout le monde a un avis. Donc, voilà, c'est comme ça. On va quand même donner la parole à Simone et essayer de réagir sur Mourinho.
Excuse-moi, Simone.
Qu'est-ce que tu veux ajouter?
La chose à dire, j'ai l'impression que c'est le même discours qu'on a fait il y a 3 semaines, ou il y a un mois après Liverpool, c'est plus ou moins la même chose. On est surpris tout le temps de ce que fait Mourinho de mal à Manchester. Et ce que je veux vous dire, c'est que Ferguson n'est plus là depuis combien d'années? 5-6. Et on a l'impression que c'est toujours un erreur de casting. Chaque année, Manchester n'arrivera à s'épasser de Ferguson, n'arrivera jamais à trouver les nouveaux Ferguson. On recherche un nouveau Ferguson comme si c'était possible, comme à l'Inter recherche un nouveau Mourinho, et c'est impossible, il faut trouver autre chose. Mais Manchester avait besoin, et je termine là, de gagner quelque chose. Ils ont décidé de prendre Mourinho. Après, il a fait gagner l'Europa League. C'est un titre mineur, majeur. Ça dépend de comment on les considère. La manière, peu importe. Mais Manchester avait besoin de retrouver une petite place, même en Europe. Il a retrouvé la Ligue des Champions. Il a retrouvé une titre européenne.
Manchester peut pas peut-être n'est pas ça.
Non, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas spécialement trouvé un Ferguson.
Ils peuvent pas jouer à domicile contre le voisin avec 30% de possession.
Parce que City, c'est la meilleure équipe du monde.
Mais non, mais ça n'existe pas.
City, c'est la meilleure équipe du monde aujourd'hui.
Dans la philosophie.
Vas-y Pierre, vas-y.
On demande pas à United de trouver un nouveau Ferguson, c'est pas possible, tu le trouves pas comme ça. Mais l'erreur de casting, elle est où tu prends un coach qui ne correspond pas à ta philosophie depuis des décennies.
Ils ont pris Van Gaal à 20, c'est la même chose.
Van Gaal, c'est pas du tout Mourinho. Van Gaal, il peut être autant rigide et tout ce que tu veux, mais c'est un entraîneur.
Les Van Gaal de Manchester, c'était la même chose.
C'est quand même le mec qui a lancé Iniesta et Xavi.
Van Gaal, il joue pas du tout comme Mourinho, c'est pas du tout un mec à autobus. Van Gaal, c'est l'école de l'Ajax, de quoi tu parles.
Alors,
ça n'a rien à voir. Mais non, mais
pour terminer, ça joue sur la rivalité Guardiola-Mourinho. Fred, est-ce que tu as un truc à dire?
De casting, oui,
non, mais c'est né chez toi, la rivalité.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y avait
je suis d'accord avec Philippe qu'il y a une sorte de complexe d'infériorité de Mourinho, que Mourinho avait aussi par rapport aux Espagnols, en tant que Portugais, qu'on me comprenne bien. Hein. C'est-à-dire le complexe qu'ont les Espagnols par rapport aux Français, certains Portugais l'ont par rapport aux Espagnols. Et il était tout le temps dans la comparaison et tout le temps vouloir exister d'une manière ou d'une autre. Et souvent, sa manière d'exister, c'était de créer du conflit. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime vivre là-dedans, qui n'est jamais dans la tranquillité. On a l'impression qu'il a l'impression de ne pas exister quand il n'y a pas de crise.
Ouais.
C'est quelque chose de... Et donc, c'est vraiment un bouquin de psychanalyse que, plutôt à écrire sur lui. Et Guardiola a toujours gagné dans ce combat-là avec Mourinho. Il a toujours gagné. Je me souviens d'une mythique conférence de presse où il a dit à Madrid... Il a dit...
Préfet, là.
Ouais, c'est ça, en disant c'est le putain de chef à Madrid. Moi, ici, c'est sa salle de presse, parce que c'était un match à Madrid. C'est lui le putain de chef ici, dans la salle de presse. Une manière de dire, sur le terrain, c'est moi le chef. Lui, il se bat dans la salle de presse. Et Mourinho avait rapidement compris qui était... Guardiola avait vite compris qui était Mourinho. Et il savait le désamorcer très très vite.
C'est vrai. En fait, il avait dit, t'as raison Fred, t'es le putain de chef en conf de presse. Maintenant, rendez-vous demain, 20h45, sur le terrain à côté.
Mais le problème, c'est qu'il y en a un qui pense football et il y en a un autre qui pense à autre chose. Il y en a un qui en fait ne veut pas aller sur le terrain de l'autre. Guardiola en fait s'en fout de Mourinho, alors que Mourinho vit pour l'autre et vit pour s'opposer à l'autre et vit dans le conflit
et dans la reconnaissance alors que par rapport à l'autre.
En fait, il y en a un qui est l'autre, alors que je pense que il y en a un l'autre en fait, et Guardiola méprise Mourinho.
Mais d'ailleurs,
et c'est bien pire comme sentiment.
Daniel,
d'ailleurs,
tu dates à 2010, le début de la baisse de Mourinho, c'est là où il a commencé à vivre pour cette rivalité.
Exactement.
Avant, il ne la vivait pas,
bien sûr.
Puisque Guardiola
le
n'était
Mourinho
pas
à ce des années 2000, il est passionnant à suivre et son style n'est pas aussi stéréotypé. En fait, il a tout poussé, il a absolument tout poussé dans le paroxysme de devenir, parce que au départ c'est pas forcément un bétonneur Mourinho, pas du tout, mais après il s'est dit je vais pousser là-dedans pour, en fait à chaque fois son idée c'est faire fermer la gueule aux gens, et quand tu vis uniquement pour ça, mais tu peux pas t'en sortir.
Ça a marché cette fois-là en 2010 contre le Barça de Guardiola et c'est tout.
Et encore on a tellement mal interprété ce qui s'était passé dans ces deux confrontations là on continue de dire que c'était à chaque fois il faut rappeler que c'était particulier, qu'ils ont joué à 10 à la 20e minute.
Non, le pire c'est l'histoire de Eto'o arrière gauche. Vous rendez compte, il a fait jouer Eto'o arrière gauche.
D'une bêtise. Et les gens continuent à raconter ça. Enfin, c'est pas dur de revoir les matchs aujourd'hui. Allez revoir le match aller-retour. Et vous verrez que c'était pas du tout ce qu'il fait aujourd'hui à Manchester.
23h17 dans l'after. On met Mourinho de côté, Philippe. C'est bon, on peut parler d'autre chose.
Oui.
Sur le derby, tu veux rajouter quelque chose ou on passe aux autres matchs?
Non, sur le derby, je pense qu'on a dit ce qu'il y avait à dire. Il y a des choses quand même à signaler.
Et les commentateurs, ils disent quoi là-bas, les fabuleux consultants, Carragher, Neville, compagnie?
Mourinho, je pense qu'il a pas intérêt d'ouvrir sa boîte aux lettres pour les 48 heures ou 72 heures qui viennent.
Il se fait massacrer,
Daniel.
Mais pour la façon de jouer?
Pour la façon de jouer, pour la réaction, pour le fait que beaucoup de gens pensent que cette histoire de venir dans le vestiaire de Manchester City, c'était quelque chose de complètement calculé. Encore une fois, c'est pour... Fred, c'est pas moi qui...
On parle pas de choses, on parle pas de la victoire, on parle pas de la défaite, là.
On parle pas de la défaite.
Mais c'est la vieille technique.
Absolument, et il va parler d'un pénalty inexistant sur R1 qui a pris un carton jaune pour simulation, mais bon, où il y a simulation. Je sais que je me fais démolir par les fans de Manchester United en ce moment sur Twitter, parce qu'ils n'acceptent pas.
Mais les fans de Manchester United, les vrais, ils supportent pas ça.
Mais absolument,
il y a les footix de supporters qui sont en France, qui vont continuer à défendre. En Angleterre, ils en veulent plus.
Alors,
je vous interromps.
Passons à autre chose.
Depuis 22h, je pense que c'est au moins la 5e référence que vous faites à vos comptes Twitter en disant je me fais défoncer, etc. Et tout.
Oh ben oui, mais je vous invite, c'est pas en ce moment, c'est plus tard. Hein. Oui, c'était plutôt pendant toute la journée, je me suis fait défoncer.
Plusieurs fois qu'on entend ça, et je pense qu'on peut aussi faire nos avis, débattre et tout en mettant Twitter
de côté.
Absolument, on est bien d'accord.
C'est mon petit appel du moment.
On est bien d'accord. Philippe, sinon,
si vous êtes d'accord, Jean-Louis, envoyez un tweet.
Pour
me défoncer.
On va faire un sondage sur Twitter sur le sujet.
Alors, simplement, bon, la défaite de Chelsea contre West Ham, c'était pas nécessairement prévu au programme. C'est vrai qu'on est en ce moment un petit peu dans de la folie au niveau du championnat d'Angleterre, puisqu'on a une journée qui se jouera demain après-demain.
Ou pas?
Écoute,
Barça.
Chelsea, c'est tout l'un, tout l'autre, d'un match à l'autre, c'est complètement inconstant, inconsistant, irrégulier. Là, ils n'ont absolument pas volé leur défaite, si l'on peut parler de la sorte. Il y a également à dire sur la performance plutôt glauque d'Arsenal à Southampton, où ils ont beaucoup, beaucoup de chance, grâce à Olivier Giroud, de repartir avec un point. Je voudrais quand même aussi insister sur le fait qu'on a un certain Harry Kane, qui en est maintenant à 50 buts en 2017 après son doublé, 50 buts en équipe nationale et en sélection, on n'a pas affaire à un branque. Et puis aussi parler de Liverpool, du derby de Liverpool. Je sais qu'on doit partager, on n'a pas beaucoup de temps,
non, mais
c'est un match qui était fascinant à regarder parce qu'on a vu une équipe de Liverpool qui en ce moment est elle est en pleine bourre.
Fait des trucs bizarres, Klopp.
Surtout il y a cette interview incroyable de Klopp là après le match.
Écoute, il a mais non ça, mais tout simplement, tu sais ce qui s'est passé.
Vas-y, raconte.
Tu fais un pari, à savoir que tu as une équipe qui vient de passer 5 buts à 6, 7 buts à ça. Tu changes l'équipe une nouvelle fois. Tu mets des joueurs dans le 11 de départ qui sont pas des joueurs qui, a priori, sont titulaires. Je pense à Dominic Solanke et Alex Oxlade-Chamberlain, que j'aime beaucoup. C'est pas un problème. Mais tu retires de l'équipe Philippe Coutinho, qui vient de marquer un hat-trick. Tu retires Roberto Firmino. Tu retires Emre Can. Et ça, dans un derby face à l'équipe d'Everton qui vient de changer de manager et a 2 victoires dans ses 2 derniers matchs.
Ouais, mais t'as laissé déjà, ça là. T'as laissé compliqué. Ça là, donc c'est bon.
Non mais tu laisses ça là, mais non seulement.
Non, mais
tu
laisses ça là parce qu'il est sur un nuage en ce moment. Quoi.
Il est sur un nuage, il est magnifique, il marque un but absolument somptueux, vraiment dans la façon dont il imagine, la finesse là, de la réalisation, la confiance, c'est superbe. Il est aujourd'hui meilleur buteur du championnat d'Angleterre avec 13 buts et c'est un bonheur de le voir jouer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il le remplace. Alors tu vois, il le remplace alors qu'il mène 1-0. Mané, il y a des problèmes avec Mané, on sait, entre Klopp et Mané en ce moment. Mané qui mange complètement la feuille dans un 3 contre 1 au lieu de passer
pourquoi
le ballon.
Il y a des problèmes, c'est quand même un super joueur.
Super joueur, mais bon, on ne connaît pas nécessairement tout ce qui se passe sur le terrain d'entraînement et dans le vestiaire. Hein. Il peut y avoir des problèmes liés à d'autres choses. Mais le fait est que c'était un pari qu'il avait fait. C'est un pari qui aurait pu réussir parce que Liverpool s'est créé énormément d'occasions, a largement, outrageusement même dominé cette équipe d'Everton. Mais ils n'ont pas profité de ces occasions. Ils se sont retrouvés à 1-0. Il y a ce changement de Salah. Et il y a le fait que, bon, il y a un pénalty qui est sifflé, qui est un pénalty. Alors là, c'est pareil. Les fans de Liverpool sont furieux. Bah, il y a pénalty, les gars. Désolé.
Bien sûr.
Wayne Rooney met le pénalty. Ça fait un partout. Everton n'a pas vu le jour pendant toute la période, pendant tout le match.
On est d'accord.
C'est un pari.
C'est le feu qu'il a lâché.
C'est un pari qui a raté. Et quand ton pari réussit, que t'es entraîneur, tout le monde te dit, alors là, chapeau les gars, c'était fantastique, bravo, tu pensais déjà à la journée de championnat qui arrive, et c'est vrai, il y avait un autre match qui arrivait 72 heures après. Si ça foire, même si t'as eu 5 ou 6 occasions nettes, à ce moment-là, les gens te posent des questions. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens se posent des questions, et que Klopp, à la sortie du terrain, il savait qu'on allait lui poser des questions. Et que c'est ça qui explique, c'est la personnalité de Klopp qui plaît à beaucoup de gens. Moi, elle me plaît à certains égards, elle me plaît beaucoup moins à d'autres.
Ouais.
C'est un côté calculateur qu'il a. Quand il est arrivé en conférence de presse et pour faire ses interviews, simplement, il savait qu'on allait le reprendre de voler sur ses choix d'équipe. Et c'est pour ça que vous avez eu la réaction que vous avez eue, qui était ridicule. Et c'est dommage pour Liverpool, parce que Liverpool, franchement, en ce moment, c'est un bonheur à voir jouer, absolu. Lorsque c'est une équipe qui est en particulier avec ses 4 attaquants, là, il a décidé que c'était pas la peine contre Everton. Encore une fois, c'est un pari. Si le pari avait réussi, on aurait dit bravo. Le pari n'a pas réussi. Donc, on a le droit peut-être de mettre quelques critiques.
Allez, on arrête là sur l'Angleterre. On a fait le tour. Il y avait beaucoup de choses à dire avec ce derby de Manchester, notamment.
Merci de votre générosité.
Oh, bah, avec plaisir, Philippe.
Avec plaisir.
L'Italie, l'Allemagne et l'Espagne dans un instant dans l'after. Avis tranché à venir de Simone Rovera sur le Milan et sur Gattuso, son nouveau meilleur ami, je pense. À tout de suite.
RMC, le super football show. L'After Foot, Jean-Louis Tour.
Avec Pierre Ducrot, Daniel Riolo et les drôles de dames comme tous les lundis dans l'After. Fred Hermel, Philippe Auclair, Simone Rovera, David Lorto. Je vous rappelle le jeu de Noël, hein. Vous pouvez encore vous inscrire en envoyant Noël par SMS au 732-16.
C'est à quelle heure les boules?
C'est juste avant 20 minuit.
Ah ouais. Donc, voilà, ils sont plus là, pourquoi?
Bah on ira, bah parce que écoute, c'est toute une préparation, tout ça est fait sous le regard d'un huissier. Et les boules reviendront tout à l'heure. Vous pourrez encore être tiré au sort, donc envoyez Noël par SMS au 732-16 ou bien vous faites le 32-16 puis la touche 5 sur votre téléphone. L'Italie tout de suite, jingle Simone Rovera.
Il y a Alexis Sanchez.
Chapeau 4.
Alexis Sanchez, c'est pas possible.
Il est à Arsenal. Il est pas au Real Madrid, monsieur.
On fait qu'un les chapeaux là.
Il est toujours. Ah, c'est vrai, s'il faut
faire une mise à jour.
En janvier, on va un peu refaire. Il y a des soirées un peu, un peu libres.
Il n'y avait pas Mbappé dans nos chapeaux à l'époque.
Bah, c'est pour ça.
Parce quel chapeau Mbappé.
Imagine. Faut refaire les chapeaux.
Les chapeaux vont vite.
Il faut, bah oui, les chapeaux,
les
ça chapeaux change tout.
Les deux, Mbappé.
Ah, ça va se discuter.
Entre 2 et 3, non?
Chapeau 1, 2 et 1 plutôt, non?
Il y a peut-être entre 2 et 1, ça va se discuter.
Ah ouais, d'accord. Alexis, ça reste toujours chapeau 4.
Non. Il a peut-être reculé, il était chapeau 2 là.
Et Benzema?
Ah, elle a peut-être reculé aussi. Demande à Fred, mais je pense que ça a reculé.
Bah, attends les 8e de finale contre le PSG.
Voilà, est-ce que ça a un sens de faire des chapeaux maintenant?
Bah oui, parce que ça fait mercato d'hiver, parce que le but est de jouer au dirigeant.
Ah oui, d'accord.
Le but, c'est de jouer au dirigeant, te dire là, demain, t'as le chéquier, tu dois recruter, qui tu recrutes.
Pourquoi pas? Je pense que Harry Kane est passé chapeau, maintenant.
Pardon?
Je pense que Harry Kane est passé chapeau.
Harry Kane, oui, il est chapeau, maintenant.
Fred, il met un vrai coup de tronche au week-end, Harry Kane.
Non, parce que Daniel, il aime pas jouer au dirigeant, il aime jouer au dictateur.
Et même Mohamed Salah était pas bien placé dans nos chapeaux.
Et ben là, il est remonté.
Un attaquant des côtés, donc
là, maintenant, il va débouler dans les chapeaux, bien placé maintenant.
Alors, Gattuso, dans le chapeau des entraîneurs, on le met où?
Pour l'instant, il est sans chapeau, là. Il regarde. Non, il avait même pas hier. Il neigeait sur Milan. Il neigeait à San Siro. Il avait même pas de doudoune. Il était avec la veste. Oui, il avait un pull, mais sur la chemise. Mais sans doudoune, tranquille, comme s'il était sur le terrain. Il était chaud.
Peut-être il avait un damar, tu le savais pas.
Ouais, possible. Mais là, je te peux dire qu'il était chaud quand même, dans son esprit, dans son âme. Et sûrement, s'il y aura, quand on fera des chapeaux, je peux déjà vous dire qu'il y aura aucune des attaquants de Milan dans les chapeaux. Parce que aujourd'hui, Milan reste quand même encore un géant malade du football. Ce que je dis, c'est que Gattuso, pour l'instant, c'est une aspirine. Ça dépend de quelle est les...
Bah, ça dépend quelle maladie tu soignes. Si c'est un mal de tête, l'aspirine, c'est bon.
C'est pas seulement un mal de tête, ça, c'est sûr. Ça, il faut voir si c'est une fièvre que tu peux soigner avec l'aspirine. Et j'ai l'impression que le mal du Milan, c'est la plus grave. Mais quand même, Gattuso a commencé à faire quelque chose. Une phrase... Après, on les dit beau souvent, des phrases comme ça. Mais des Suso, ce soir, il y avait la fête de Noël du Milan. Et Suso a dit, on s'était jamais entraîné avec cette intensité avant. Ah. C'est sûr que Gattuso, qui sort des mots, des phrases un peu...
Ah bah Gattuso, c'est l'entraîneur avec les burnes.
Si
oh là là, ouais, mais enfin, si les joueurs ne se sont pas entraînés avec cette intensité depuis 5 mois, c'est qu'ils ont eux-mêmes pas mis les bons ingrédients. Quoi.
Ce que ça sort un peu entre les joueurs et les rumeurs de VCR, c'est que Gattuso arrive presque à mettre pression, à faire un peu peur aux joueurs. Ça veut dire qu'avant
moi je lui donne 2 mois pour coller une tarte à un joueur. C'est son style. Hein.
Oui, possible.
Je pense qu'il y en a un qui déconne en entraînement, il va lui coller
après,
une tarte.
C'est pas...
Ou d'aller dans le vestiaire adverse après un derby. Non
ça peut aussi.
C'est possible. C'est pas un entraîneur qui a encore trouvé son style. Il a joué seulement 3 matchs. Les premières étaient la catastrophe de Benevento. Il s'est fait un peu ridiculiser dans le monde pour ce but de la tête du gardien de Benevento. Ah oui. Les deuxièmes, c'était Milan déjà première de la poule. En Europa League qui a perdu sans montrer rien de bon. Il y a eu cette victoire, cette première victoire hier qui a fait énormément de bien, au moins au niveau mental, au Milan, et a fait même beaucoup de bien au peuple de Rossoneri. C'était la première des Gattuso à San Siro. Et je peux vous dire que s'il y a une seule nom qui a été ovationné au moment de la lecture des compositions, c'est Gattuso.
C'est Rino.
Ben, bien sûr, Rino Gattuso. Les premiers chants qui a fait la Curva Sud a été pour Gattuso, étaient les chants qu'on lui faisait quand il était joueur. Donc, il a trouvé la façon de récupérer un lien qui semblait perdu entre les supporters et l'équipe. Et ça, c'est peut-être les bons choix qu'il a fait Milan sur ça. Il a pris des distances tout de suite de ce qui a été fait sur le mercato. C'est-à-dire, on oublie la défense à 3, il veut jouer à 4, il joue à 4, il va le faire, il remet titulaire et donne confiance à certains joueurs qui jouait un peu moins, aussi il y a eu des blessures dans ces dernières semaines, mais Abate était encore là. Abate, c'était un des joueurs emblématiques, un ancien, était aussi capitaine de ces Milan, il était là dans les années 2010, donc c'est un joueur historique. Montolivo, Bonaventura qui a marqué les 3 buts en 3 matchs, donc une autre qui était là la saison dernière, donc ils reviennent un peu au groupe des anciennes, pas aux nouveaux, qui sont des déceptions. J'ai regardé un peu les noms de ces mercato et j'ai cherché de faire un classement. S'il y en a un qui s'est sauvé, c'est Rodriguez, c'est l'ancien latéral gauche. Et peut-être Borini qui n'a pas été acheté pour être une star, mais seulement pour être un joueur qui est couru.
Il y a tout ça, des mecs de caractère comme
qui,
ça.
Sont toujours blessés, qui ne s'imposent pas. De Bonucci, je parle même pas parce que j'ai dit plusieurs fois. Moussaku est arrivé comme une grande espoir, c'est une grande déception.
Ça peut pas lui faire du bien.
Je pense qu'il peut lui faire du bien. Pour l'instant, sur les trois matchs, il a joué deux. On n'a pas vu des changements, mais on commence à voir un changement. On peut dire d'état d'esprit. Je pense que pour une équipe qui était bâtie pour être pour lutter pour les titres, parce qu'il faut le dire, Milan était bâti pour lutter pour les titres.
C'était l'objectif. Ouais.
Et au pire, arriver quatrième, aujourd'hui, ils sont à 11 points de la quatrième place.
Ah oui, ça va être compliqué.
C'est un peu, c'est presque terminé la saison. On va pas les revoir en Ligue des Champions. Sauf s'ils gagnent l'Europa League. Tu parlais de l'Europa League juste avant. Ils ont pris Ludogorets dans les tirages. C'est encore quelque chose qui peut aider. Il y a deux, trois choses qui peuvent aider, c'est Milan. Ils jouent face à Vérone en Coupe d'Italie cette semaine. Enchaîner une deuxième victoire, ça peut être utile. Il peut avoir un derby en Coupe d'Italie les 2 janvier. Donc attention, ça aussi peut aider la confiance. Gattuso, c'est quelqu'un qui s'y arrive à enchaîner des résultats. Il peut reporter un enthousiasme.
Ont vraiment les joueurs, quoi. Au fond, si tout le recrutement a foiré, c'est pas avec ce qu'ils ont qu'ils peuvent aller loin.
Tu peux pas aller
devant,
loin.
Devant, ça reste supérieur.
Tu peux pas aller loin. Mais de rater totalement une saison, arriver en 8e, 9e, 10e, à faire un bon parcours en Europe, t'as
ils
quand même
pas
le Paris.
Les Chinois, là, il y a pas des problèmes d'oseille.
Il y a des énormes problèmes. Mais on sait pas qui est quelles sont les garanties bancaires vraies du propriétaire. Ouais. Il y a beaucoup de rumeurs sur le fait que l'UEFA n'acceptera pas les voluntary agreements, c'est-à-dire l'accord pour rentrer des frais, des dépenses qu'ils ont fait cet été. Donc, il y a un risque énorme de voir des joueurs partir. Les directeurs généraux, encore ce matin, a dit, s'il n'y a pas la Ligue des Champions, on pourrait perdre et vendre quelques joueurs.
Enfin,
donc,
Gattuso ou pas, ça pue un peu.
Mais Gattuso risque en ce moment d'éviter une catastrophe. Je suis pas confiant parce que je crois pas qu'il est un entraîneur top. Je suis pas confiant au niveau d'entraîneur, mais au niveau des hommes à la bon moment, à la bonne position. En ce moment, oui, c'était la moins pire des choses que pouvait revenir.
Et le derby d'Italie, là, alors, c'était pas terrible.
Problème Dybala, toujours.
Derby d'Italie et problème Dybala. Ça, il faut le dire, c'était pas top le match, mais je prends une phrase d'une des meilleures consultantes de Sky Sport, qui est Daniela Dani, c'est un défenseur de l'Inter, de Brescia, et qui a dit, un match comme ça, en Espagne, il s'endort devant. En Angleterre, il change de chaîne. En Italie, tu aimes les côtés tactiques. C'est peut-être une phrase pour les Italiennes. Mais moi, j'ai plutôt aimé certains duels, engagements et certains matchs que l'Inter ne devait pas perdre, ne voulait pas perdre. Elle n'a pas perdu. Donc,
ce 0-0, c'est l'Inter qui en ressort.
L'Inter en sort hyper bien. Il a joué à Rome. Ouais. Cette première phase, cette partie aller du championnat, il a joué à Rome et il a gagné. À Naples, il a fait 0-0. Et à Turin, il a fait 0-0. Ça sort avec la première place, parce que Naples, hier, n'a pas gagné. La Roma n'a pas gagné. Et la confiance d'être au niveau des autres. Donc pour l'Inter, c'est que du bien.
C'est l'Inter qui peut faire le gros truc cette année. Hein.
Sans coupe.
Tout le monde parle Juve et Naples, et puis l'Inter arrive. Là.
Si l'Inter arrive à tenir, il faut voir combien vont prolonger les plaisirs en Europe, la Juventus et la Roma. Et Naples, c'était pas un plaisir, l'Europa League, mais
c'est
Dybala très rapidement.
Oui, vas-y.
Il était remplaçant. Il est rentré, il a un peu boudé, et aujourd'hui, il a eu une phrase de Nedved qui peut être interprétée comme on veut.
C'est parce qu'il veut se barrer, c'est quoi? Il y a de ça là-dessous.
Qui veut se barrer, peut-être pas encore. Et on a l'impression qu'il
a. Les mecs qui font des caprices comme
qu'il
ça.
Qu'il se considère déjà un top player. Quand aujourd'hui, après le tirage à sort, Nedved, qui a parlé à tous les télé italiennes, il a dit la même chose. Si je dois donner un conseil à Dybala, j'ai dit de penser un peu plus au football, de penser surtout au football et renoncer à quelque chose dans sa vie privée pour se concentrer sur le football.
Et c'est quoi sa vie privée? À quoi il doit renoncer?
Il doit renoncer peut-être à sortir, il peut renoncer à faire quelque chose.
Ah oui? Il sort un peu trop, c'est marrant, au PSG, on ne dit pas les personnes pour nous dire ça.
La chose importante, c'est que Nedved, qui
est
dit,
PSG, du coup.
Et si quelqu'un ne connaît pas Nedved, c'est simplement un ballon d'or, c'est simplement le vice-président de la Juve, c'est simplement un des symboles
mais Nedved,
de la
c'est
Juve.
Bon, ouais. Je pense que le haut niveau autorité de la Juve, c'est bon. Ouais.
Et même s'il n'a pas taclé d'une façon très dure,
ça suffit qu'il dise ça.
Dybala, c'est méchant, Dybala fait ça. Ouais. Pour moi, ça reste un tacle énorme parce que c'est Nedved qui l'a dit, et l'a dit de Dybala, qui est le symbole aujourd'hui de la Juve, et lui donne un avis en disant, tu dois penser plus au football. Ça, pour moi, c'est les symptômes d'un problème grave.
C'est un peu dur, ça. Ouais, ça veut, s'il le dit, c'est qu'ils ont dû voir que Dybala...
On arrête là.
Sur l'Italie. Il est connu pour sortir beaucoup. Il est pas, il fait un peu la fête.
Il y a des rumeurs, mais... Il n'y a pas des caméras dans tous les boîtes.
Après, on le sait, à Paris non plus, il n'y a pas les caméras, mais on, ça n'empêche pas de savoir.
Après, si Nedved le dit,
c'est peut-être qu'il a...
Oui, c'est qu'il a un peu les...
Une stat, simplement. Il avait fait 10 buts dans les premières 8 matchs de la saison. Il a 2 buts dans les 14 derrière.
Dans un instant, la vie tranchée de David Lorto sur l'Allemagne, puis celui de Fred Hermel sur l'actu espagnol. A tout de suite.
RMC, le super football show. L'Afterfoot, Jean-Louis Tour.
Avec Pierre Ducrot, Daniel Riolo et nos drôles de dames, Simone Rovera, Philippe Auclair, Fred Hermel et David Lorto. On y va sur l'Allemagne.
Je rappelle que Lorto porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA.
Et là, David, tu veux nous dire de ne pas nous alarmer sur le niveau du foot allemand et des résultats allemands en Coupe d'Europe.
Ah bon?
Oui, parce que c'est des grands mots, des très très grands mots, des mots solennels, des mots forts, des mots catastrophistes qui sont employés par nos confrères en Allemagne et pas des moindres. Hein,
toute la presse s'y est mise. Il faut s'alarmer alors.
Alors attends, parce que c'est le bilan qui a été constaté sur Ligue des Champions plus Ligue Europa comprise pour cette saison 2017-2018 est effectivement totalement catastrophique. On n'avait pas vu un bilan aussi maigre depuis des années et des années. Il faut même remonter à 1981 pour voir une journée de une semaine de Coupe d'Europe sans aucune victoire allemande et avec seulement des défaites. C'était au mois de septembre. 6 clubs engagés, 6 défaites. Il n'y a que 2 qualifiés en Ligue Europa, et ce sont les 2 qui ont été reversés de la Ligue des Champions. Ce sera le Borussia Dortmund et Leipzig. Le Bayern, bien sûr, est le seul à poursuivre sa route en 8e de finale.
Ils vont jouer qui, Dortmund? Leipzig, Atalanta. Je sais que c'est Naples.
Voilà, c'est 2 clubs italiens, voilà.
Ah bah ça passe. Donc,
ce sera peut-être un peu plus facile pour Dortmund que
ça
pour
passe
le
pas,
RB Leipzig.
Hein.
Donc ce que je voulais dire, c'est que au moment où l'indice UEFA est catastrophique pour l'Allemagne dans cette saison, l'Allemagne est 11e, derrière la Russie, derrière l'Ukraine, derrière l'Autriche, derrière Chypre.
Donc c'est cata, mais pas alarmant, là j'avoue que j'ai du mal à suivre.
Alors laisse-moi formuler mon raisonnement si tu
derrière
veux bien,
Chypre,
Daniel.
Derrière Chypre, c'est normal, il y a Michael Poté.
2017-2018. Vous avez une conjonction d'éléments qui fait que, à mon sens, la saison actuelle est particulière. C'est-à-dire que vous avez eu, par exemple, un club comme RB Leipzig qui a joué contre Beşiktaş Istanbul, qui a tiré 43 fois au but dans les 2 confrontations contre Beşiktaş et qui n'a ramassé aucun point sur les 2 matchs. 43 tirs, 0 point à l'arrivée. Vous avez des équipes comme le Hertha Berlin, comme Hoffenheim, comme Cologne, qui ont subi cette saison des défaites complètement incroyables pour certaines. On se demandait parfois comment le ballon pouvait ne pas rentrer. D'ailleurs, Dortmund, dans sa double confrontation contre Nicosie, a réussi l'exploit de faire 2 fois un partout. Et vous vous souvenez comment c'était inconcevable.
Donc, tu veux dire que c'est la faute à pas de chance ?
Alors, je dirais pas ça. Je dirais simplement que le catastrophisme qui est ambiant en ce moment en Allemagne, pour moi, n'est pas forcément un problème sur le long terme. Certes, là, l'Allemagne était 2e au classement à l'indice UEFA au début de la saison 2017-2018. Elle est descendue à la 4e place sur les 5 dernières saisons. Et la France la menace. L'Italie est passée devant. L'Angleterre est passée devant. Et la France la menace. Si le Paris Saint-Germain devait aller en finale de la Ligue des Champions, on en est loin, mais si ça arrivait, la France se rapprocherait dangereusement de l'Allemagne. Et donc, la 4e place directement qualificative en Ligue des Champions, même si ça c'est hypothétique, serait menaçable. Ce que je veux dire moi, c'est que l'Allemagne s'appuie sur une formation que l'on connaît très performante, et quand elle est devenue championne du monde en 2014, elle revenait d'un creux énorme, vous vous souvenez, les années 98, 2000, 2002, qui était assez catastrophique, et c'est Oliver Kahn en 2002 qui avait caché l'arbre, qui était l'arbre qui cachait la forêt. Et on s'est réveillé en Allemagne en disant on va appuyer sur la formation. C'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, parce que le constat effectivement actuel, c'est de dire regardez le PSG, regardez des clubs comme Manchester City, regardez les grands d'Europe et les riches en Europe, on n'est pas capable de rivaliser, Bayern mis à part. On n'est pas capable de rivaliser. Donc il faut s'appuyer sur la formation, il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. Ça a marché, et l'Allemagne est devenue championne du monde comme ça. Donc moi, ce que je veux dire ce soir, c'est que le catastrophisme au quotidien qu'on est en train de constater en ce moment en Allemagne, parce que le bilan de cette saison est très mauvais.
En gros, tu veux bien accorder et passer sur cette année qui sera Qatar et rendez-vous l'année prochaine pour voir si c'est
voilà,
mieux.
Voilà, c'est l'idée que je voulais faire passer ce soir. Après, je suis conscient que c'est un point de vue et un avis tranché un peu téméraire, parce qu'il y a quand même quelques signaux un peu inquiétants.
On va t'accorder le bénéfice du doute, parce que les Allemands qui sont aussi mauvais, c'est tellement rare. Ouais.
Et alors, David, dans l'actu, ça a bougé justement à Dortmund. Qui est Peter Stöger?
Le
mec qui vient de prendre un coup de chausson et Dortmund le prend, je comprends pas.
Ouais, voilà, c'est la dinguerie là en ce moment entre Cologne et Dortmund. Donc Peter Stöger, l'entraîneur autrichien de Cologne, qui avait euphorisé ce club pendant deux saisons, qu'il avait fait remonter en Coupe d'Europe deux décennies en l'occurrence après, a été limogé durement parce que Cologne effectivement ne gagnait plus un match. Et Peter Stöger, l'autrichien, quelques heures plus tard. Au moment où Dortmund décide de se séparer de son entraîneur, Peter Bosch, donc viré l'ancien de l'Ajax, prend Stöger dans la foulée. On a vécu la conférence de presse en direct à la télévision ce week-end.
Se faire virer parce que son club était dernier.
Ça, c'est pas illogique.
Non, je.
Mais Stöger, c'est étrange.
Stöger
était parti avec les honneurs, David. On est bien d'accord, il y avait une haie d'honneur. C'était très émouvant, les adieux à Stöger.
Tout à fait. Et là, absolument, oui, c'est vrai. À Cologne, on lui sait gré de ce qu'il a réussi. Et si Dortmund le prend, c'est pour une raison très simple. C'est parce que c'est un entraîneur qui, croit-on, peut être plus équilibré dans ses tactiques et dans l'abord qu'il peut avoir des matchs par rapport à Stöger, à Bosch, qui lui était très offensif. On l'avait dit. On se souvenait de son jeu offensif déjà aussi avec l'Ajax. Sauf que, donc ça, c'est l'espoir qu'il y a à Dortmund. Sauf qu'à Dortmund, le problème est beaucoup plus profond. Et Stöger, qui a signé pour 6 mois, donc jusqu'à la fin de la saison, moyennant, je crois, 3 millions d'euros.
Quand même. Il y a de l'oseille au BVB.
Oui, quand même. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le magicien que l'on espère au BVB. Alors là aussi, on va voir, parce qu'à Dortmund, évidemment, l'objectif, c'est de gagner la Ligue Europa, désormais. Clair et net.
Ouais.
Et donc, on va voir dans les prochains mois, à partir de février,
ce
que cet entraîneur peut arriver à faire avec cet effectif qui est, on l'a dit, très déséquilibré et qui est plus fort en attaque qu'en défense.
Merci David, on enchaîne.
C'est marrant cette Europa League. Après, quand il y a les clubs reversés, finalement, les costauds, tout le monde veut la gagner, on a l'impression que c'est la traînée du coin, tout le monde veut la pêcher. C'est facile.
Mais la traînée du coin.
Non mais tu sais, c'est facile.
On parle plus comme ça, Daniel, en 2017.
Mais
oui, c'est fini,
maintenant.
T'es fou, toi.
Il faut évoluer un peu. Non, on a vraiment l'impression, c'est tout le monde veut se jeter dessus. Vas-y, voilà, tout le temps, on se les fait.
Allez, on enchaîne sur l'Espagne.
Non mais une tête de taureau, ça coûte une fortune. Une tête de taureau de corrida empaillée, c'est magnifique, quoi.
Très bien, on va pas savoir comment on arrive là aussi dans la discussion. Vous avez encore 5 minutes pour peut-être être tiré au sort, envoyer Noël par SMS au 732-16. Fred.
Et gagner une tête de taureau.
Voilà. Fred, donc tu veux nous parler de Valence?
Oui, je fais mon petit point mensuel sur Valence, parce que rappelez-vous, en 2013-2014, quand l'Atlético faisait à peu près le même parcours que Valence, on se disait, allez, 3-4 journées, ça va s'arrêter. Puis arriver de la 8e, ça va s'arrêter. Arriver de la 12e, ça va s'arrêter. Puis finalement, ils ont été champions. Et là, on va faire un petit point. Nous sommes à la 15e journée et Valence est toujours 2e. Tient bien le rythme. Et pour rapprocher ça un petit peu avec le tirage de la Ligue des Champions, je vous rappelle simplement que cette équipe de Valence ne joue ni la Ligue des Champions, ni la Ligue Europa. Qu'elle a le temps tranquillement de préparer ses matchs pendant une semaine, et que vu les tirages qu'ont surtout le Real et le Barça, je vous rappelle le Real, le PSG, vous le savez, mais le Barça, Chelsea.
Ah, ça y est, tu crois plus au titre pour le Real?
Ah si, j'y crois encore.
Ah oui.
Mais j'y crois encore. Non, mais laisse-moi terminer simplement le truc. C'est que Valence me semble avoir un petit boulevard. Alors, peut-être pas un grand boulevard, mais un petit boulevard. Parce que automatiquement, les tirages de Ligue des Champions ont un effet sur ce qui se passe en championnat. Parce qu'on fait tourner, parce qu'on a la tête ailleurs, etc. Et à partir du moment où les deux gros cadors du championnat espagnol ont des tirages compliqués en 8e, j'ai l'impression que Valence va encore pouvoir en profiter. Donc je vous donne rendez-vous
dans
quelques semaines.
Finir dans les 4,
mais attends, moi, juste pour comprendre la vie tranchée, ils ont un boulevard pour le titre, Valence?
Non, pour la deuxième place.
En tout cas, pour la deuxième place, voire pour le titre, parce que quand tu joues un match par semaine,
ils sont un peu à l'arrache quand même, Valence, depuis 3 matchs, non?
Pas pour le titre quand même.
Non, mais ils gagnent encore. Alors, il y a eu un accident à Rétafé la semaine dernière, mais là, contre le Celta, ils gagnent encore, c'est 2-1, mais ils gagnent encore, quoi. Ils en sont à 2 nuls, une défaite depuis le début de la saison, donc c'est quand même un rythme d'équipe qui reste très très haut au niveau du classement. Donc, Valence n'est pas qu'un mirage. Valence est une équipe qui est en train de s'installer tout en haut du classement et qui, j'insiste, est la première qui va profiter des tirages compliqués de ses concurrents.
Et dis-moi, Fred,
je vais gagner sans Guedes hier.
Je veux surtout pas, oui, mais c'est vrai. Je veux surtout pas envisager le pire et des nuits horribles pour toi, enfin des minutes blanches. Mais le Real qui termine quatrième et qui se fait sortir en huitième de la Ligue des Champions, c'est pas pensable. Il se passerait quoi?
Ils lâcheraient plein de joueurs.
Non, mais avec l'entraîneur, je pense que c'est la question de Denis.
Non, je parlais avec tout le monde.
Non, mais je parlais pas de ça.
Tu, qu'est-ce que tu déformes aujourd'hui?
C'est ce qui peut se passer.
Bah, justement, ils viennent de le dire, ils achètent plein. Qu'est-ce qu'ils font?
Alors là, ils vont.
Non, mais on est d'accord, c'est impensable pour eux, quoi.
Bah, c'est impensable. Oui, enfin, c'est impensable, ça a dû arriver, hein. Donc.
Non, mais là, 4ème de la Liga, sortir 8ème, ce serait affreux, non?
Ce serait affreux, mais ce serait pas la fin du monde. Donc, ils ont été combien, 6 ans, 8 ans, à pas passer les 8e. Ouais. Et puis après, ils ont trouvé le truc. Non, ce qui est sûr, c'est que il sort le chéquier de la carte bleue. Hein. Mais il a pas la gold, la platinium. Hein.
Sauf Benzema.
Moi, je te dis sincèrement,
il sort la centurion, la carte noire américaine.
Ah oui, la platinium, c'est un cadeau, toi,
celle de Daniel
Riolo. Bien au-dessus.
Mais moi, je vous annonce déjà, je vous dis simplement, le Real
se fait.
Si le Real se fait taper en 8e de finale et finit 3e ou 4e de la Liga, Daniel, ouais. Le Real va chercher Neymar. Fait tout pour avoir Neymar. Ça, je peux vous l'assurer.
Refile le 200 000 boules au PSG.
Ah ben il attaque à mort. Tu sais, après c'est surtout avec papa que ça se passe, avec papa Neymar. Hein. Après c'est une question de commission. Hein. Donc,
on dit un mot sur le. 200 millions à papa, 200 millions au fils.
Et c'est bon. On dit un mot sur le Barça ou on a fait le tour
extra. Le Barça a eu match compliqué hier à Villarreal. On en l'évoquait tout à l'heure quand on parlait de Lyon, puisque Villarreal est son rival en Ligue Europa. Tant qu'ils ont été à 11 contre 11, le Barça a eu du mal. Après, ça a été plus facile avec l'expulsion d'un joueur de Villarreal. C'est pas brillant, le Barça, mais ça gagne, ça fait des bons résultats. C'est une équipe très solide. Et puis surtout, c'est la grosse nouvelle, le Barça a réussi un magnifique transfert que personne n'attendait. Vermeulen a fait un super match.
Ouais, c'est vrai que c'est incroyable.
Ancien ami de Philippe Auclair.
Ben oui, il avait disparu. Ben,
toi, tu l'as connu toujours blessé aussi, Philippe.
Oui, il avait très très bien commencé sa carrière à Arsenal, mais bon, quand il en était parti, tout le monde se disait, c'était en fait son physique qui était son problème. C'était les blessures, c'était pas le talent qui était en cause.
Messieurs, mais il faut qu'on en reste là, il y a le jeu de Noël. Je suis désolé. Faut donner des cartes. C'est les boules. On y va pour le jeu de Noël et on vous remerciera après. Donc nous avons le magnifique saladier avec les boules à côté. Alors on est en fin de journée dans l'after le matin chez Jean-Jacques Bourdin. Il y a plein de boules partout. Nous forcément, il y en a plus beaucoup. Nous avons nos deux gagnants. Bah oui, viens. Sébastien est avec nous. Salut Sébastien. Allez viens. Salut Sébastien.
Bonjour.
Alors écoute Sébastien, Daniel va tirer une boule et va te dire qui t'offre quel cadeau. Alors Daniel, voilà,
je mélange.
Il se prend pour Gianni Infantino à la grande époque là.
Oh là, c'est Pierre Dorian.
Alors Pierre Dorian, qu'est-ce qu'il t'offre Pierre Dorian? Qu'on retrouve dans le Super Moscato Show tous les jours à 16h. Hein. Émission de référence.
Attention, vas-y Jean, c'est toi qui dis. Hein.
Il t'offre un GPS. Un GPS TomTom Go. Voilà Sébastien.
Bravo.
Merci.
Ça existe encore les TomTom?
Bah oui, on dirait. Ouais,
c'est ce que j'allais dire.
Allez, tire la deuxième boule.
Deuxième boule, c'est pour qui?
C'est pour Fessal. Salut Fessal et Sébastien, bravo, on t'envoie ça très vite. Salut Fessal.
Bonsoir.
Salut Fessal.
Il me semble que c'est Charlemagnien.
Charlemagnien.
Voilà, Charlemagnien du matin de Bourdin Direct.
Quel surnom, Charlemagnien?
Non. Président Magnien. Ah, Magnien président, c'est la chronique politique.
Ah, voilà, c'est mieux ça.
Et il t'offre une tablette. Voilà, une tablette.
Bien ça, c'est Pierrot, il va lui chourer.
Non, c'est pour toi, fais ça de la tablette, bravo.
Bravo
Jean-Louis, ce que j'ai fait. Voilà, fais ça, on t'envoie la tablette. Prochain jeu de Noël, demain dans l'after, et puis on aura tout au long de la journée, évidemment, grâce à rue du commerce.com.
La prochaine fois, c'est toi qui tire les boules.
Et bien sûr, tout le monde y passera. Voilà, ce sera comme ça jusqu'au 22 décembre sur RMC. Merci à tous, Fred Hermel, Philippe Auclair, David Lorto, Simone Rovera.
Bonsoir.
Merci Daniel, merci Pierre.
Merci à vous, monsieur.
Et demain, on a Coupe de la Ligue.
Et oui, l'after après les soirées de Coupe de la Ligue. 8ème de finale, qu'est-ce qu'il y a demain au programme? Vous allez vous régaler avec Toulouse-Bordeaux à 18h45 dans Team Duga, Monaco-Caen 21h05, Angers-Metz 21h05, After à partir de 23h, donc juste
la première ligue.
Allez, bonne nuit à tous.
On ne sait pas.
On verra demain.
Le Grand Noël RMC
avec rudecommerce.com.
RMC, le super football show, l'after foot.